matin, c'est arrivé demain. François Claus.
Ce furent des mots très forts prononcés un jour de février 2007. C'est depuis cette semaine, mars 2019, un texte avec des mots finalement gravés pour une forme d'éternité. Bonjour Maître Kiegemann.
Bonjour.
Bonjour Maître Malka.
Bonjour.
Vous co-signez cet éloge de l'irrévérence publié chez Grasset. Vous décidez donc, 12 ans après, de republier mot à mot les plaidoiries que vous avez prononcées en février 2007, lorsque Charlie Hebdo était assigné devant un tribunal pour avoir publié les caricatures de Mahomet. Pourquoi cette décision de transformer les mots d'une plaidoirie, processus totalement inédit dans le monde éditorial, en un livre ?
D'abord parce qu'il me semble que la liberté d'expression qui était au cœur des plaidoiries de Richard Malka et de moi est toujours menacée, même aujourd'hui, fût-ce par l'excès des réseaux sociaux qui tendent à brouiller justement la libre expression raisonnable. Et puis aussi, c'est une manière de nous souvenir de nos amis qui ont été lâchement assassinés quelques années après ce procès. C'est une manière de leur rendre hommage aussi.
Richard Malka.
Parce que l'affaire des caricatures de Mahomet, qui a commencé par la publication de ces fameuses caricatures au Danemark et qui a été un événement mondial, puisque ça a enflammé le monde, c'est un événement marquant qui a manifesté ce que nous aimerions bien éviter, c'est-à-dire le choc des civilisations.
Il faut rappeler ce contexte, voilà,
des ambassades incendiées, des manifestations, des morts, des journalistes emprisonnés partout dans le monde, des boycotts, des appels à la violence un peu partout. Le monde s'est véritablement enflammé. Vous aviez un monde qui disait « Pour nous, la critique de Dieu, ce n'est pas négociable, on doit pouvoir la poursuivre. » Et l'autre monde disait « Pour nous, le respect de Dieu, ce n'est pas négociable. » Alors comment on en sort ? Eh bien, on en sort, en tout cas, c'est le pari que nous faisons par l'intelligence, par la pédagogie, en expliquant ce qui a été nos plaidoiries, nos points de vue argumentés qui n'étaient pas dans la provocation, et pour faire valoir que notre point de vue était celui du bonheur des hommes, au travers de la liberté d'expression et au travers de leur libre arbitre à pouvoir critiquer, être irrévérencieux à l'égard du spirituel et de Dieu, pour que les hommes soient libres.
Alors le 7 janvier 2015, c'est l'attentat à Charlie Hebdo. J'imagine que pour vous, lorsque vous apprenez cela, lorsque vous êtes battu pour qu'ils aient leur liberté de s'exprimer, ça a dû être un choc terrible, Maître Kiegemann.
Bon, c'est un choc terrible, d'abord, parce que certains d'entre eux sont vraiment des amis très proches. Pour Richard Malka, c'est sa famille, Charlie Hebdo. Mais pour moi, des gens comme Wolinski, comme Cabu, ce sont véritablement des frères. Et donc, oui, c'est un drame absolu et que des gens soient morts pour avoir exprimé leurs idées me paraît un crime tout à fait impardonnable et le premier de tous les crimes.
Vous vous êtes dit, Maître Malka, ce 7 janvier 2015, 8 ans après le procès que vous aviez gagné, tout ça pour ça ?
Je ne me suis pas dit grand-chose le 7 janvier 2015. Il y a la vie avant, et puis il y a une vie après, et puis c'est plus la même, c'est au-delà du choc. Donc pendant le mois qui a suivi les attentats, j'étais peu dans la réflexion. Après, évidemment, on a un regard rétrospectif, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a voulu faire ce livre. C'est une sorte d'hommage aux idées pour lesquelles ces personnes, malheureusement, ne sont plus parmi nous. Évidemment, on se pose la question de savoir et si ce procès n'avait pas eu lieu, mais c'est une question absurde.
Dis un mot que je suis persuadé que ça n'aurait évidemment rien changé. L'assassinat a eu lieu 7 ans après le procès et il est évident que Charlie Hebdo était resté aux yeux des musulmans intégristes un des ennemis à abattre quoi qu'il arrive.
Ce combat que vous meniez devant le tribunal et que vous continuez à mener 12 ans plus tard en publiant cet éloge de l'irrévérence chez Grasset, il est, on a le sentiment, Richard Malka, encore plus d'actualité.
Ah, il est encore plus d'actualité parce que en relisant ma plaidoirie, puisqu'il s'agissait de l'éditer, je me suis aperçu que je ne pourrais plus plaider de la même manière aujourd'hui.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que je n'aurai pas la même liberté, la même légèreté, la même méchanceté parfois, la même drôlerie, parce qu'on riait encore à l'époque. Je ne pourrai plus dire les mêmes choses, ce qui veut dire que nous avons gagné devant le tribunal, mais que parallèlement, Et très paradoxalement, il y a une régression de la liberté d'expression qui n'est pas du tout due au juge, mais qui est due à la société elle-même. Et c'est très inquiétant parce que la liberté d'expression est la mère de toutes les autres libertés. Donc, quand elle recule, on peut être à peu près certain que les autres libertés reculeront aussi.
Alors ces mots, justement, on va les entendre dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus.
Cet entretien avec deux avocats devenus finalement écrivains, Georges Kiechmann, Richard Malka, qui publie Éloge de l'irrévérence chez Grasset, livre et processus d'édition totalement inédit, puisqu'on publie en l'état deux plaidoiries qui avaient été prononcées lors du procès de Charlie Hebdo et des caricatures de Mahomet, le texte mot à mot qui avait été alors scripté dans le tribunal. Maître Kiechmann, Richard Malka disait « on a gagné devant la justice, mais je ne ferai pas la même plaidoirie ». Est-ce que vous estimez, vous aussi, que finalement la justice a gagné, mais que la société, le monde, a régressé ?
Bien sûr. Il y a certains courants intellectuels, y compris à gauche ou à l'extrême gauche, qui contribuent à cette réduction de la liberté de penser. Par exemple, avoir inventé le concept d'islamophobie, qui réprime non pas ceux qui parlent de l'islam, mais ceux qui disent quoi que ce soit ayant un vague lien avec l'islam. C'est une manière de dire « ne touchez pas l'islam, même pour le critiquer dans ses actions critiquables, car vous seriez des islamophobes ». Alors un tas de gens ne veulent pas être des islamophobes et finissent par se taire. Or, le rapport de l'islam avec la violence est un rapport qui mérite d'être étudié. Ça ne veut pas dire forcément, ça va de soi, que tous les islamistes sont violents et des terroristes en puissance, mais ça rappelle que tous les terroristes se réclament de l'islam. Et ça, on pourrait le montrer par une ou deux citations rapides.
Alors, les citations, peut-être ou peut-être pas, mais ces mots que vous avez prononcés, qui étaient des mots de plaidoirie, qui deviennent des mots pour une forme d'histoire, qui deviennent des mots de littérature publiés chez Grasset, ben on va se livrer à un exercice radiophonique un peu inédit. Je vais vous proposer, messieurs, maîtres, de lire une partie de cette plaidoirie que vous prononciez donc en février 2007 devant le tribunal. Vous avez la parole, Maître Malka.
Alors, juste pour contextualiser un tout petit extrait, nos adversaires, et c'est classique dans ce type de débat, nous disaient « mais vous ne pouvez pas blesser les musulmans, ce que vous avez fait est très blessant ». Et cet argument m'énervait terriblement parce que la démocratie, c'est le débat. Donc c'est d'accepter d'être blessé et je ne voyais pas pourquoi les musulmans seraient les seuls auxquels on dénierait la faculté, y compris de rire d'eux-mêmes et de rire de leur propre religion, alors qu'il y a une vraie tradition qui existe dans le monde musulman. Et j'avais parlé aussi de Nasreddin Hoxha, des petites histoires qui courent dans tout le monde arabe depuis des siècles. Et donc,
Et là, vous prenez la parole ce jour-là, devant le tribunal, et vous dites
« Je ne vois pas pourquoi les musulmans seraient les seuls citoyens au monde qui ne seraient pas capables de rire d'eux-mêmes. Ils peuvent dire « notre Dieu est mis en cause, cela nous blesse ». On leur reconnaît cette légitimité de la blessure. Bien sûr que cette blessure est légitime. Est-ce qu'on va chercher à interdire tout ce qui nous blesse dans la mesure où la blessure est une notion subjective ? Il ne resterait plus rien dans le débat et plus rien dans la liberté d'expression. Que ces choses soient blessantes, évidemment, mais de là à vouloir interdire, je ne veux pas interdire tout ce qui me blesse.
Voilà ce que vous disiez devant le tribunal, procès qui a été gagné en appel, en cassation, rappelons-le, à l'époque. Maître Kiechmann, vous avez
la parole. Moi, j'essaye d'aller même un peu plus loin que ne l'a fait Richard, c'est-à-dire que Richard revendique le droit de blesser les musulmans comme ça peut se faire dans tout débat démocratique. Moi, j'essaye, pour des raisons plus juridiques, de montrer que, en fait, en ce qui concerne les caricatures reprises par Charlie Hebdo, il n'y a aucune atteinte à l'ensemble des musulmans, mais simplement aux terroristes. La couverture de Kabul montrait bien en disant « Mahomet dépassé par les intégristes » et Mahomet disant « c'est dur d'être aimé par des cons ». Donc je fais une espèce d'exhortation aux gens qui sont en face de nous pour leur reprocher de ne pas participer à ce qui devrait être un combat commun contre les intégristes.
On rappelle que les gens en face de vous, il y a notamment le recteur de la mosquée de Paris qui était plutôt un homme de dialogue
mosquée, Boisker,
et qui vous a incité à monter plus fort encore au combat. Maître Kiechmann.
Je dis, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un jour où ne soit confronté, non pas à la violence de l'ensemble des musulmans, aucun de nous ne dit cela, mais à la violence d'une minorité que la majorité est incapable de maîtriser. Et dans cette majorité qui devrait dénoncer les terroristes, c'était d'autant plus triste d'avoir Boubacar en face de nous que Boubacar était une des rares voix qui s'était élevée au sein de l'islam, et je le cite, il ne peut pas renier ses propos, là c'est Boubacar qui parle. « Aujourd'hui, plus que jamais, les musulmans doivent sortir de la torpeur dogmatique ankylosante pour vivre dans le monde tel qu'il est. Face à ces constats, le mirage le plus dangereux qui les menace est sans nul doute celui de l'intégrisme religieux. » Or, Charlie Hebdo n'avait rien fait d'autre que ça, dénoncer l'intégrisme religieux et de non pas dénoncer l'ensemble des musulmans.
Et voilà pourquoi ces mots, on doit les réentendre aujourd'hui, au moment où débute la deuxième semaine du procès Merah. Des mots donc qui étaient des mots écrits pour des plaidoiries, pour un temps donné, avec un débat qui traversait alors la société française et qui, depuis quelques jours, sont des mots écrits, gravés finalement dans une forme d'éternité pour un processus éditorial assez inédit. Et pour l'avoir lu, ça passe très très bien en lecture. Lisez donc « Éloge de l'irrévérence » publié chez Grasset, co-signé par Maître Kiejman et Maître Melka, que je remercie d'être venu ce matin sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus. Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus.
Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Dans l'implosion démocratique, Jean Viard, vous évoquez finalement une révolution dont personne n'aurait réellement conscience, une révolution, dites-vous, qui en 10 ans a finalement changé le monde, plus que la révolution industrielle en un siècle.
Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, on a vécu d'abord une révolution culturelle où, au fond, les individus sont sortis des classes sociales, sont devenus des individus, avec un sentiment de liberté, de bonheur, on a fait l'amour 4 fois plus, etc. On a fait 50 km par jour. Les gens, c'est pour ça que les gens sont heureux de cette révolution individuelle. Mais sauf qu'il n'y a plus de lien construit. Et puis là-dessus est arrivée la révolution numérique. On va dire Twitter 2007 pour aller vite. Et en 10 ans, ces individus sont à 4 milliards connectés sur Internet. Donc il y a une énorme connexion des individus isolés et la transformation écologique qui fait système au milieu. Tout ça, ça bouscule les sociétés à l'intérieur d'une même génération. La révolution industrielle, ça a été 3, 4, 5 générations. Donc on avait le temps d'avancer, les intellos avaient le temps de penser, les politiques, etc. Là, c'est dans la même génération, les politiques sont largués et les intellos sont à la traîne. Alors les Français encore plus.
Alors on est dans ce paradoxe où on n'a jamais été autant connectés ensemble et on n'a jamais été autant seuls, dites-vous.
On est dans une société où les indicateurs, l'espérance de vie, le nombre de bébés, etc. sont positifs, mais du coup les structures, le cœur matrimonial, on va dire, de la société s'est déstructuré, a explosé, et donc du coup les gens sont paumés. Alors ils se sont d'abord rassemblés par la télé, puis au bout d'un moment on en a eu marre de passer notre vie devant la télé, on est passé dans des réseaux Facebook, etc. Donc chacun regarde son réseau, ses copains, les gens qui pensent la même chose, mais on ne fait plus société ensemble.
Ça veut dire, et là on arrive au titre de votre livre, l'implosion démocratique, que l'offre politique n'est pas là pour répondre à ce nouveau malheur qui nous envahit.
Depuis 40 ans, on va dire les ouvriers ou les enfants d'ouvriers ont eu la réussite sociale d'aller habiter autour des villes, ou même des petites villes, de construire une maison, d'acheter une Phoenix, 2 bagnoles, etc. Et sur ce modèle-là, aujourd'hui on leur dit, mais les mecs, c'est fini. Aujourd'hui, il faut être dans la ville, il faut être métropolitain, il faut faire du vélo, etc. Il faut s'installer au bord de l'eau. Et les mecs qui avaient réussi leur vie et qui avaient transmis la culture de travailler à leurs enfants, c'est la France qui bosse. C'est pas les gens aidés, c'est pas tout ça. Ceux-là, ils sont dans les métropoles. Et donc ceux-là, ils avaient l'impression d'être la classe ouvrière réussie. Et d'un coup, ils ont l'impression d'être complètement décollés. C'est pour ça, l'autre jour, j'ai dit au président à la réunion qu'on a eue à l'Élysée, je dis, monsieur le président, il faut penser la métropole rurale. C'est indispensable. Qu'est-ce que c'est que la culture métropolitaine ? Non, si on ne sait pas le faire, on ira au régime autoritaire.
On va revenir, Jean Viard, sur ce concept de métropole rurale qui entre dans l'arsenal de propositions souvent très intéressantes que vous développez dans cet ouvrage. Mais on sent chez vous, Jean Viard, souvent sociologue du bonheur, êtes-vous qualifié, une vraie inquiétude. Facebook est en train de faire éclater notre modèle démocratique avec une puissance qu'on n'avait plus connue, dites-vous, depuis l'Église dominante et le Comintern. En deux mots, on va vers le fascisme.
On va vers un nouveau système totalitaire, je veux dire, celui qui a fait élire Trump. Et sans Trump et sans Facebook, il ne serait sans doute pas élu. Alors Facebook a retouché ses algorithmes et maintenant il travaille par zone géographique de proximité. Derrière chaque rond-point, il y a un réseau Facebook et c'est ça qui est en train de se passer. On est des individus reliés par Facebook et dans cela, on ne sait pas faire de politique, personne ne sait. Le président Macron essaye, j'allais dire, du populisme démocratique pour dire les choses, ce qui explique que les uns, ça les énerve, etc. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va savoir inventer de la politique? Franchement, je n'en sais rien. Il est certain que dans ce monde-là, le populisme, c'est ce qui marche le mieux.
Alors, vous n'en savez rien, mais vous lancez des pistes. Elles sont intéressantes, notamment celle, à un moment donné, et c'est l'une des revendications majeures, de redonner la parole, dites-vous. Mais ça passe par une réforme du territoire, une réforme de notre Constitution. Il faudra des années et des années.
Non, il faut que le président aille à la hache. On n'est pas dans le temps de petits pansements. Il faut aller à la hache. Il faut supprimer l'ENA. Il faut dire, attendez, les élites, oui, on a compris. L'ENA, on supprime. Le Sénat, attendez, ce truc de vieille personne, c'est pas avec ça qu'on va gouverner la France. Et de l'autre côté, il faut dire, il faut faire un grand pacte territorial. De Gaulle l'a fait. On l'a fait, Jules Ferry l'a fait. On l'a fait en 89. Il faut dire, quel est l'enjeu de la France? L'enjeu de la France, c'est d'un côté, il y a du territoire arable, il faut le protéger pour les générations suivantes. Leur garantir que leurs enfants seront nourris, habillés et chauffés, j'allais dire, dans l'éternité des temps. Première chose. Deuxième chose, les métropoles, c'est la nouvelle puissance. Troisième chose, comment on fait une société horizontale? Comment on donne un droit à la métropole? Comment un gamin du Larzac, il a une chambre en cité à Montpellier parce qu'il a droit à une chambre, parce que le gamin de Montpellier, il habite chez ses parents. Donc quand est-ce qu'on va faire une politique horizontale? Ça vaut pour la santé, ça vaut pour des tas de sujets. C'est ça le véritable enjeu. Et de l'autre côté, il faut complètement redéfinir le territoire démocratique. Moi, je donne deux pistes. La première, c'est d'avoir des très grandes communes, comme on fait tous les pays d'Europe. C'est quoi des petites communes de 300 personnes avec un maire qui est là depuis 4 générations? Je veux dire, ça rime à rien, quoi. Et il faut des communes à la taille des villes. Il y a 7000 collèges, 10 000 supermarchés, faisons 10 000
Cela
communes.
Passerait par un nouveau pacte territorial, dites-vous, qui ne serait finalement que le quatrième dans l'histoire de France depuis la Révolution française.
Parce qu'on est un pays terrien, et on a toujours construit nos sentiments d'appartenance dans la terre. Les Anglais, c'est dans le commerce et la mer, pour prendre un exemple tout simple. Nous, on est un pays fondamentalement terrien, nos symboles sont terriens, donc il faut faire de la terre la garantie écologique du futur. Après, on peut discuter.
Alors, l'implosion démocratique, allez, pour finir, Jean-Vier, il y a des chiffres dans votre livre, je vais vous demander un commentaire rapide, ce que ça peut nous inspirer. Vous nous dites, il y a en France 65 127 ronds-points.
C'est catastrophique, à 500 000 à 1 million d'euros le rond-point. Et ça me fait dire que la qualité de gestion des maires locaux mérite méditation. Il y en a 5 000 aux États-Unis et 10 000 en Allemagne.
Vous nous dites que le SMIC a augmenté de 16 % en 10 ans, le coût de la vie de 12 %.
Oui, ben ça veut dire qu'on a gagné 33 centimes par mois en moyenne hors inflation depuis 10 ans. Or, entre-temps, il faut avoir un portable, c'est indispensable, ça fait partie du minimum vital. Il faut avoir un abonnement télé. Donc, je veux dire, rien que ça, si vous voulez, il est temps de dire avec quoi on peut vivre aujourd'hui. Eh bien, on peut vivre aujourd'hui avec un truc qui est un peu plus haut que celui qu'on donne.
Alors, un dernier chiffre, alors celui-là, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. Vous nous dites, aujourd'hui, il faut faire en moyenne 5000 fois l'amour pour avoir deux enfants. Au début du siècle, il fallait faire 1000 fois l'amour et on en avait 4.
C'est pour dire qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Non seulement l'espérance de vie va augmenter.
Moins d'enfants, mais plus d'amour.
Les femmes choisissent le nombre d'enfants qu'elles veulent, ce qui est quand même un enjeu majeur. Et effectivement, on fait mieux que l'amour. Donc, tout ne va pas si mal.
Tout ne va pas si mal, mais il y a urgence, dites-vous.
Ah ben il y a urgence, sinon on va dans un régime autoritaire, hein, comme on a en Italie, comme on a chez Orban, comme on a aux États-Unis et au Brésil.
Hein, ils en sont conscients, les gens avec qui vous parlez? Vous nous parliez d'une rencontre avec
les gens avec qui j'en parle, ils en sont conscients.
Ils en sont conscients, donc on va vivre des choses intéressantes dans les semaines, les mois qui viennent.
C'est ce pourquoi je m'échine.
Ce livre, pour terminer, il est dédié aux hérissons, virgule, espèce en voie de disparition, dites-vous.
J'adore les hérissons, j'en trouve plus jamais. Si vous voulez, c'est comme les abeilles. On ne peut pas laisser la nature se laisser détruire, parce que comment vous voulez donner confiance dans l'avenir? Vous savez que dans cette société, il y a 3% des gens qui croient qu'on vivra mieux demain et 70% qui croient qu'on vivait mieux hier. Il faut inverser ça. Comment une société qui ne désire pas l'avenir, elle finit par se battre.
Merci Jean Viard d'être venu ce matin sur Europe 1. C'est l'implosion démocratique. Difficile de résumer 200 pages en quelques 10 minutes, mais au moins, on espère vous avoir donné envie de le lire. Ce sont des pistes de réflexion, vous l'avez compris, par les temps qui courent, intéressantes à décrypter, et c'est aux éditions de l'Aube.
Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus. Europe 1.
De 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec François Claus sur Europe 1.
Et nous sommes avec Éric Delbecq, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Les Ingouvernables chez Grasset, de l'extrême-gauche utopiste à l'ultra-gauche violente, plongée dans cette France méconnue, dites-vous, qui nous intrigue, qui est souvent exprimée de manière caricaturale dans les médias. D'où vient le mot « black bloc » d'abord?
Tout simplement de la manière dont ils s'organisent et dont ils s'habillent, hein, puisqu'ils finissent par former effectivement un bloc, une concentration d'individus, ils sont habillés de noir, donc la formule s'imposait. Par contre, on ne sait pas trop si elle vient des policiers ou des contestataires, et elle nous est arrivée d'Allemagne. Mais on ne saurait dire qui l'a inventée.
C'est le conglomérat, dites-vous, d'une forme de rejet très fort du système, articulé autour de cette idée d'une violence.
Oui, c'est vraiment une contestation violente. Alors, leur horizon idéologique, c'est de refuser le capitalisme et l'État et toute forme de domination, comme ils disent, donc de modèle d'autorité. Et la fédération de leurs différentes nuances se fait dans un mode d'action qui est cette contestation violente et qui en vient à poser la violence, finalement, comme un objectif. C'est-à-dire, il y a une jouissance de la violence qui est claire. Hein. On se croirait dans le film célèbre des années 90, Fight Club, où on vient pour se taper dessus parce qu'on aime ça. Alors, de ce point de vue-là, c'est très inquiétant, puis c'est le contraire de la République, c'est le contraire de la démocratie.
Alors, cette violence, elle ne repose pas forcément sur un terreau idéologique. Lorsqu'on pensait extrême-gauche des années 70, il y avait le marxisme, le maoïsme, là, on est sur un rejet brutal du système, c'est finalement ça qui relie ces militants.
Oui, il y a une très très grande différence entre leur coloration idéologique et le marxisme. Le marxisme était quelque chose de structuré, avec un idéal, une utopie à réaliser, très construite, avec une stratégie très construite. Là, ces gens-là sont dans une espèce d'anarcho-primitivisme, dont l'essence est quand même extrêmement brutale, dans une espèce de mythe, on va tous se remettre dans les forêts, on va vivre sans technologie, sans société de consommation, sans industrie, et ça va très bien se passer. Alors, pour bien les comprendre, en fait, il y a un auteur qu'il faut relire, c'est Pierre Clastres, anthropologue très très connu, qui a fait une archéologie de la violence, où il dit finalement, il y a des petites sociétés primitives qu'on idéalisait, parce qu'elles s'organisaient sans chef, c'est censé être l'autosuffisance, c'était merveilleux, mais en fait, elles ne pouvaient vivre que dans la brutalité et l'exclusion des petits groupes les uns des autres. Donc c'est ça le fait. Et la violence est majeure.
Pour revenir sur cette idéologie, et vous l'évoquez dans votre livre, c'est une manière de combattre cette thèse développée depuis les années Thatcher. Il n'y a pas d'autre solution dans notre monde que de vivre dans une démocratie ultralibérale.
Oui, alors disons que c'est un peu un masque aussi. Moi, j'ai tendance à penser, plus je les observe, plus j'ai tendance à penser qu'ils se satisfont, ils vivent, ils se nourrissent de cette espèce de spectacularisation de la violence, et qu'il y a, comme dans les années 20, comme dans l'Italie pré-mussolinienne, le fait qu'on est tellement content d'être ensemble, de se battre, d'avoir cette espèce de fraternité des tranchées de l'époque qui se reconduit, parce que finalement, s'affronter à la police, c'est une espèce de tranchée, hein, c'est se faire plaisir dans la violence. Et moi, je crois que ça prend de plus en plus le pas sur l'idéologie elle-même. Il parle de joie armée, la joie armée. C'est quand même révélateur comme formule.
Alors, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Vous évoquez plusieurs générations qui se retrouvent, et c'est un mouvement assez gazeux qu'on a du mal à contourner.
Ah bah complètement gazeux, parce qu'il n'y a pas de profil, en fait. C'est-à-dire, on peut avoir des jeunes gens de 16-17 ans, des gens de 20, 30, 40, voire jusqu'à la cinquantaine. Donc, ils sont vraiment réunis par le mode d'action. Il n'y a pas de profil type socio-économique. Il y a des gens qui sont en précarité, mais il y a aussi des gens qui sont très bien intégrés socialement. Donc, c'est difficile de dire ça correspond à quelque chose dans la société. Ça correspond à quelque chose dans les têtes. C'est très différent.
Est-ce qu'il y a une forme d'international? Parce qu'on parle à chaque manifestation, il y en a qui viennent de l'étranger. On revient d'ailleurs à un mythe des années, de militantisme 60 et 70 de l'international. Est-ce qu'il y a cet international?
Alors, les Black Blocs français se portent très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, étant donné qu'il y en a dans beaucoup de pays d'Europe, bah, ils se portent les uns au secours des autres, j'allais dire. Hein, donc ils viennent faire l'effectif. Parce qu'ils sont quand même, dans chaque pays, que quelques milliers. Donc, pour pouvoir être efficace, il faut essayer de coaguler l'effort. Donc, il y en a dans toute l'Europe.
Et on a du mal à mesurer, à comprendre l'impuissance de l'État face à cette révolte. Vous dites vous-même, il y en a 1500, 2000. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à les contrôler?
Parce que nous sommes victimes de nos idéaux. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut dire, les forces de police et de gendarmerie sont extrêmement mesurées dans l'usage de la force. Or, pour venir à bout de gens comme ça, il faut aller au contact, il faut les interpeller et il faut les condamner. Donc quand vous êtes au milieu d'une foule où ils se dissimulent, puisque c'est la technique du coucou pour les forces de l'ordre...
Alors le coucou, on rappelle, c'est l'oiseau qui pond dans le nid des autres, hein, comme vous dites.
Voilà, donc en fait, ils vont dans une manifestation. Sur des photos qu'on peut prendre d'eux, on les voit très bien. Hein. Il y a des manifestants qui ne sont pas forcément des Black Blocs, qui sont à l'intérieur, et si les forces de l'ordre veulent aller les attraper, ça devient très compliqué. Donc on est victime du fait que nos forces de l'ordre sont celles d'un État de droit.
Comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Et est-ce que, allez, j'allais dire, on connaît les techniques d'infiltration des réseaux. Est-ce que l'infiltration, on va dire, digitale dans le darknet est possible pour les forces de l'ordre pour venir à un moment donné apporter cette réponse répressive et judiciaire?
Étant donné qu'ils sont assez rustiques, ils ne se servent pas rustiques au sens où ils ont compris qu'il fallait se connaître, se voir physiquement, parce qu'effectivement les réseaux pouvaient être surveillés, ils sont assez difficiles à attraper et ils sont constitués en des cellules qui se connaissent. Donc si vous voulez infiltrer une cellule dans laquelle tout le monde se connaît, ça va être compliqué parce que vous allez être par définition suspect. Donc l'infiltration, elle est possible, elle est complexe. Et après, sur par exemple les réseaux sociaux, ils sont dans une démarche de promotion. C'est-à-dire que si...
Oui, parce qu'alors tout le monde s'étonne en France, il y a un compte Facebook Black Bloc. Alors pourquoi est-ce qu'on l'interdit pas ?
Il y en a plusieurs. Il y a des comptes qui font l'apologie des Black Blocs. Après, quand ils veulent communiquer, ils ont des téléphones à usage unique, ils vont sur les messageries cryptées. Il faut rappeler que les forces de l'ordre ne peuvent pas, comme ça, aller espionner des conversations sur des messageries cryptées.
Donc, c'est dans extrêmement... un état de droit.
Eh oui. Voilà, donc c'est pour ça que la thèse des violences policières, de l'État qui est méchant, etc., elle est parfois assez ridicule.
Alors, évidemment, il y a, dans les années 70, extrême droite et extrême gauche ne pouvaient absolument pas se comparer, se mêler, c'était un combat entre eux. On a le sentiment aujourd'hui, avec les gilets jaunes au milieu, extrême droite, extrême gauche, qu'il y a une forme de stratégie commune. Finalement, une violence intéresse les autres.
Justement, parce que le message idéologique, on en parlait tout à l'heure à propos du marxisme, a tendance à s'effriter au profit de cette culture de la violence. Et finalement, ils se reconnaissent les uns les autres. C'est une minorité qui veut imposer sa manière de voir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus proche qu'un type aujourd'hui de l'ultra-gauche qu'un type de l'ultra-droite? Ils ont les mêmes modes d'action et ils ont la même rage de violence.
Et à l'époque, c'était l'idéologie.
Le
combat contre le fascisme, contre le totalitarisme, était celui de l'extrême
droite. Moi, j'ose dire que la violence à l'époque était plus canalisée parce qu'elle s'intégrait dans une stratégie politique, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le message idéologique, on a tendance à penser que ça devient de plus en plus le prétexte de la propagation d'une violence physique.
Dernière question, Éric Delbecq. Il y a le fantasme de la convergence des luttes, de l'impuissance de l'État, des commandos qui vont attaquer l'Élysée, qui vont... il faut, entre guillemets, raison garder malgré tout.
Oui, parce que ça fait partie de la guerre de l'information menée par ces gens. C'est d'essayer de nous faire croire que leur puissance est irrésistible. Elle n'est pas du tout irrésistible, mais comme on le voit, ils peuvent être pénibles à force.
Et évidemment... le spectre du 1er mai, puisqu'on repense au dernier 1er mai, est là, demain, à portée de nous. Et c'est pour ça qu'on voulait, avec vous, Éric Delbecq, faire ce voyage. Ça s'appelle Les Ingouvernables. Vous l'avez compris, c'est passionnant. J'ai grassé. Merci à vous d'être sur Europe 1
Merci.
Ce matin.
Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus. Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus.
Déchiné, cinéaste insoumis, c'est le titre du très beau documentaire que vous pourrez voir mercredi prochain sur Arte, alors que sortira dans 3 semaines le 26e film en 50 ans de carrière, L'adieu à la nuit, avec Catherine Deneuve, signé d'un réalisateur qui préfère plutôt mettre la lumière sur ses acteurs que sur lui-même, un homme pudique, un homme rare, que nous sommes donc particulièrement heureux de recevoir ce matin sur Europe 1. Bonjour Monsieur Téchiné.
Bonjour.
Thierry Cliffat, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé ce documentaire sur Arte, qu'on verra mercredi prochain. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on voit un gros plan, un tibis sur une actrice, ou sur une brasserie, ou sur un paysage, qu'on reconnaît la griffe Téchiné?
D'abord, il y a très souvent, André filme énormément en plan séquence, et il y a toujours la vie qui passe. Que ça soit sur le gros plan d'une actrice, que ça soit une scène plus en mouvement, il y a toujours la vie qui passe.
La vie qui passe, dit Thierry Cliffat, et je dirais votre capacité à vous, André Téchiné, de filmer l'intime, ce qui vous touche, vous, au plus profond des êtres, ce qui nous touche, nous, ce cinéma finalement si personnel que vous revendiquez parfaitement face à la caméra de Thierry Cliffat.
Je ne crois pas que le cinéma ait le pouvoir de changer le monde, mais en revanche, il a celui de créer des mythologies. Mon travail est beaucoup trop romanesque et revendique beaucoup trop la fiction, même si c'est une fiction parfois sous forme de fable avec une dimension politique, mais en tout cas, il n'est pas comparable à un film tract, quoi.
le cinéma ne change pas la vie, il crée des mythologies.
Moi, quand je fais un film, c'est une bouteille à la mer. Je souhaite qu'il rencontre des subjectivités, bon, comme celle de Thierry, où je m'adresse comme ça à des inconnus. Et le destin que je peux souhaiter à mes films, c'est de voyager et de rencontrer le plus d'inconnus possible dans leur singularité. La destination finale, le but, oui, c'est ça.
Moi, le cinéma d'André a changé ma vie. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'avais pas vu Hôtel des Amériques à l'âge de 13 ans, si j'aurais fait du cinéma, si j'aurais autant aimé le cinéma. Et je me rends compte aujourd'hui à travers les échos que peuvent avoir ce film sur les gens, à quel point André a marqué toute une génération d'adolescents, puis d'adultes, qui ont appris quelque part un peu la vie à travers son cinéma.
Vous inspirez aujourd'hui, André Téchiné, de très nombreux réalisateurs, jeunes réalisateurs français. Je pense à Xavier Beauvois, je pense à Olivier Assayas, qu'on voit dans le film de Thierry Cliffa. Vous parlez souvent des images de Charlie Chaplin quand vous étiez enfant, de Bergman quand vous étiez étudiant à Paris à la Cinémathèque, deux réalisateurs, André Téchiné, qui ont ancré en vous, je dirais, une volonté, un désir irrépressible de faire du cinéma.
Je crois que très vite, il y a eu, ça paraît être un bien grand mot, mais c'est pourtant comme ça que je l'ai vécu, il y a eu cette espèce de vocation, quoi.
Oui, parce que vous n'êtes pas passé par l'école de cinéma, vous êtes fait tout seul.
Non, mais c'est pour ça que très gentiment, Thierry dit que je suis un cinéaste insoumis, tout ça. C'est tout simplement parce que je n'ai pas connu les règles, vous comprenez ? C'est-à-dire que je ne suis pas, et c'est une chance finalement, ce qui pouvait être un handicap au départ et tout se révèle être une chance à l'arrivée, je n'ai pas connu les règles académiques, je ne suis pas passé par l'académie du cinéma.
Alors, il faut rappeler pour nos auditeurs, parce que j'évoquais ces images qui nous accompagnent depuis un demi-siècle, le premier film date de 1969, un très bel hommage à l'actrice Bulle Ogier. Thierry Cliffa, on peut l'égrainer un petit peu, cette filmographie d'André Téchiné.
Il y a quelque chose chez André, comme chez les chanteurs populaires, c'est-à-dire qu'André a beaucoup de tubes, en fait. Quand je faisais ce documentaire, je me disais, mais c'est fou, il y a tel film. Donc, évidemment, on peut égrainer cette filmographie. Il y a Souvenir d'en France, qui est un film assez inoubliable. Barocco, Les Sœurs Brontë, Hôtel des Amériques, Le Lieu du Crime, Rendez-vous. Ma saison préférée, Les Témoins, Les Roseaux Sauvages,
Les Voleurs,
enfin, c'est énorme. Enfin, L'Homme qu'on aimait trop, Quand on a 17 ans, Nos années folles. Enfin, chaque André a régulièrement tourné, très régulièrement tourné, et pourtant, quand on faisait ce documentaire, il m'a dit, tu sais, il y a finalement plus de films que je n'ai pas fait que de films que j'ai fait.
Alors, il y a des tubes, dites-vous, parmi ces tubes, en voici un.
Chaque fois que je viens à Paris, je descends dans cet hôtel. C'est ici que j'ai vu Quentin pour la dernière fois. Ça va faire un an.
Et depuis, pas de nouvelles?
Oh si, des lettres de plus en plus. J'étais sûr que ça finirait comme ça. Nous avions un projet ensemble et ça n'a pas empêché. On ne sauve jamais personne.
Alors je vais pas faire l'injure, cette voix vous l'avez reconnue, inimitable, Jean-Louis Trintignant.
C'est Jean-Luc Trintignant, c'est un extrait de Rendez-vous, bien sûr. Oui.
De Rendez-vous en 85, vous aurez à ce moment-là le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, et c'est l'apparition de Juliette Binoche sur nos écrans. Il y a dans le film de Cliffa une image absolument magnifique, peut-être les essais que vous faisiez avec elle de Juliette Binoche en noir et blanc. Ça a été le film de la révélation pour elle, et film inoubliable.
Ça a été le film et le festival de la révélation. Et ça tombait très bien, comme l'argument du film, c'était un peu Star is Born. Ça a été le cas, effectivement, de Juliette
à ce festival-là. Une petite provinciale qui monte à Paris entre deux hommes.
Exactement, oui.
Et puis Thierry Cliffa, au-delà de cette filmographie qu'on égrenait, il y a ce palmarès, j'allais dire, des acteurs, tous, qui fait le cinéma français depuis un demi-siècle. Eh bien, tous et toutes ont tourné avec André Téchiné.
Oui, oui, de Jeanne Moreau à Gérard Depardieu, en passant par Patrick Devers, Adjani, Huppert, Béart, c'est Michel Blanc. Enfin, c'est un palmarès vraiment très Sandrine Kiberlin. Et bien sûr, Catherine Deneuve, qui est quand même son égérie, avec qui André a fait 8 films. Et comme elle le dit dans le documentaire, elle dit sans doute que ma carrière d'actrice n'aurait pas été la même si je n'avais pas rencontré André pour Hôtel des Amériques.
Elle dit vraiment ça, Catherine Deneuve ?
Ma rencontre avec André a été très importante parce que je me suis sentie de nouveau vraiment regardée comme une actrice, observée, pas comme juste le personnage du film.
Une espèce d'affinité qui tient à l'amour du cinéma, oui.
ça a aussi changé ma conception des acteurs, quoi. J'étais moins directif, beaucoup plus attentif. Et ça, je le dois en grande partie à Catherine.
Je pense que ma vie d'actrice aurait été différente si je ne l'avais pas rencontrée, oui, oui, sûrement.
Vous allez fouiller dans vos actrices, dans le cœur, dans la tête de vos
actrices. Catherine, en fait, si vous voulez, elle peut, on peut considérer que c'est une actrice intimidante, hein, pour un metteur en scène, parce que c'est une image de cinéma très puissante. Bon, mais moi, je ne voulais surtout pas enlever sa grandeur, évidemment. Mais en même temps, j'avais envie de risquer un regard quand même un peu différent, et j'avais envie de la rendre plus humaine. Voilà. Je crois que enfin, le point commun entre Catherine et moi, c'est qu'on considère chaque film comme une aventure humaine et une aventure esthétique à la fois, et qu'on a un désir vraiment de se renouveler. Dans Hôtel des Amériques, c'était un personnage très somnambulique qu'elle interprétait. Et dans le prochain film, donc, qui va sortir en avril, c'est au contraire un personnage très terrestre, très terrien, une dame qui a un centre équestre. Enfin bon, et c'est-à-dire que on a tous les deux le désir de découvrir des territoires qui nous sont inconnus. Voilà.
Il y a une autre actrice pour laquelle vous avez eu un rôle absolument fondamental. Écoutez.
En tout cas, tout contre toi, je me suis endormie. Y a de quoi, y a pas de quoi rêver toute la nuit.
La voix inimitable, évidemment, d'Isabelle Adjani.
Oui.
C'est une belle histoire que de sortir cette chanson qui nous renvoie à Barocco 1976, où elle partage l'écran avec Gérard Depardieu, Isabelle Adjani. Ce n'est pas elle qui chantait dans le film. Hein.
Non, ce n'est pas elle qui chantait, c'était Marie-France. Et c'est vrai que très vite, j'ai eu cette envie de lui faire reprendre cette chanson de Barocco, on se voit se voir. C'est vrai que ces mots, comme cette chanson, hantent le film que j'ai fait sur André.
Ce rapport d'André Téchiné aux acteurs et aux actrices, c'est quelque chose de très singulier également.
Oui, c'est quelque chose de singulier. Et c'est vrai que j'ai pu mesurer à chaque fois à quel point il les avait marqués, à la fois dans leur, au niveau artistique, mais aussi au niveau humain. Et à quel point cette rencontre n'avait pas été une rencontre comme les autres. Ils sont tous terriblement impliqués dans la manière dont ils parlent d'André, parce que y a quelque chose qui les a marqués au fer rouge.
C'est très instinctif, la relation avec les acteurs, et c'est instinctif d'une façon tout à fait réciproque, et c'est quelque chose de très matériel, de très immédiat. Mais peut-être qu'on considère finalement chaque journée de tournage indépendamment de tout le reste, indépendamment du scénario, indépendamment de ce qui précède, indépendamment de ce qui va suivre. C'est comme si chaque fois, une journée de tournage, c'était un court-métrage à part entière, quoi, voyez. Et à ce moment-là, on ne s'occupe que du présent et que de la matière vivante. Donc c'est, je crois, ça qui fait qu'on s'enrichit et qu'on apprend des choses d'une façon tout à fait instantanée et qui ne peut passer que par le regard de la caméra, évidemment, et par le son, et par la voix, et par l'intérieur du corps aussi. Et ça, je crois que tous les acteurs le ressentent quand on travaille ensemble. C'est un peu comme des gosses, si vous voulez, qui font des opérations magiques. C'est très sérieux, hein. Bon, et là, c'est l'opération magique du cinéma, et on retrouve ensemble et en mouvement quelque chose qui a à voir avec la magie de l'enfance, oui.
Merci Monsieur Téchiné d'être venu ce matin sur Europe 1. C'était un plaisir de vous entendre, et ce sera un plaisir de vous voir sur Arte, donc mercredi, et puis très bientôt dans toutes les salles pour le 26e opus. Ce sera le 24 avril prochain, l'adieu à la nuit avec Catherine Deneuve.
Europe 1, c'est arrivé demain. François Claus.